France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Je sais pas, mais moi ça m'a glacé le sang. Les confessions de Sébastien Chabal qui explique avec beaucoup de détachement d'ailleurs qu'il ne se souvient d'aucun de ses matchs. Pas plus d'ailleurs que de la naissance de sa fille. Il le dit avec détachement parce que c'est sa personnalité et parce que le sport, c'est les coups. Le rugby n'est pas tout seul. Le hockey, le foot, le basket, le hand, le foot américain. Des sports de contact où l'on risque la commotion comme si elle faisait partie du jeu. Alors évidemment, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est plus d'ailleurs tout à fait vrai depuis Chabal. Il y a des protocoles, il y a des alertes, des médecins sur le bord du terrain pour les pros, pour dire stop quand ils voient un choc et qu'ils veulent parler aux joueurs qui viennent de se faire sonner. En théorie, on peut envoyer à l'hôpital un joueur qui a pris un choc même s'il n'a pas perdu connaissance. La réalité est peut-être un peu moins nette. C'est d'ailleurs ce qu'a dénoncé Cléopâtre Darleux, que nous aurons au téléphone dans un instant. La gardienne de l'équipe de France a pris un ballon en pleine figure en match de championnat. La réalité, c'est que l'IRM évidemment n'est pas automatique. La réalité, c'est que certains sportifs ne veulent pas rester sur le banc de touche et savent aussi rassurer le médecin, même quand ils avancent un peu au radar. Alors peut-on assurer à 100% une capacité à jouer après un choc et surtout peut-on laisser aux joueurs le choix de dire « Non mais tout va bien, je vais bien, ne vous inquiétez pas ». Est-ce qu'on peut faire mieux ? Est-ce qu'on peut faire plus pour protéger les joueurs contre les commotions et aussi contre eux-mêmes ? On parle du sport amateur comme du sport pro. En rugby par exemple, il ne viendrait plus à plus personne l'idée de jouer sans protège-dents. Il paraît que bientôt ils seront même connectés. Bien, pourquoi ne pas envisager un casque qui peut-être reste à inventer ? Parce que le casque il est porté par les joueurs de foot américain par exemple ou de hockey, ça n'empêche pas les accidents graves. Est-ce qu'un jour on interdira les têtes au foot ? Alors j'entends bien hurler les puristes, mais souvent le problème de la commotion cérébrale, ça n'est pas le coup qu'on reçoit et qui vous laisse par terre, c'est la multitude de chocs qu'on a le sentiment d'avoir encaissé sans dommage. En préparant cette émission, j'ai appris l'existence du carton bleu que l'arbitre peut brandir pour sortir un joueur après un choc dont il estime qu'il peut avoir entraîné une liaison. Eh bien moi, personnellement, je n'ai jamais vu de carton bleu. Et vous, est-ce que c'est une solution à généraliser, à utiliser partout ? Le sport est-il un sport dangereux ? C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Adrien, vous êtes le premier et vous êtes le bienvenu, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Adrien.
Bonsoir. J'ai fait 15 ans de rugby. Je suis médecin, hein, j'ai quand même baigné dans ce milieu de soins. Et pourtant, j'ai fait plusieurs KO dès le début de l'école du rugby, depuis mes 14 ans, où je pense que c'est mon premier souvenir de KO. Et puis ensuite, tout au long de la faculté, où ça faisait beaucoup rire les copains quand je me souvenais plus en quelle année de faculté j'étais, en me réveillant du coup. Mais voilà, j'ai écouté parfois les conseils. Mais parfois, j'ai rejoué le lundi même.
Et tout en sachant, parce que vous êtes médecin, quoi, vous savez exactement ce que c'est qu'une commotion, Adrien.
Pas très bien.
Et du coup, mais pardon du mauvais jeu de mots, mais qu'est-ce qui vous passe par la tête quand vous avez eu un choc violent le week-end et que vous allez quand même retourner sur le stade le lundi ?
D'abord, on ne savait pas, on n'en parlait pas beaucoup. Hein. Je vous parle là d'il y a une dizaine d'années. Mais petit à petit, on en a de plus en plus parlé. Effectivement, on m'a conseillé de ne pas y retourner. Et puis bon, c'est quand même les copains, on n'a pas envie de le dire, qu'on n'était pas tout à fait présent sur le terrain les 10 minutes qui ont suivi, mais bon, on y retourne quand même.
Et aujourd'hui, je peux vous demander quel âge vous avez aujourd'hui, Adrien ?
35 ans.
Et est-ce que vous jouez toujours d'abord ? Et est-ce que vous êtes inquiet ? Et est-ce que vous vous surveillez, du coup, comme le lait sur le feu, si vous oubliez quelque chose ou n'importe quoi, même des années après ?
Alors, je me surveille, effectivement. Je me dis parfois que je devrais consulter, parce que j'ai des petits troubles de mémoire, mais qui sont, je pense, liés surtout à ma fatigue. Mais non, je joue plus parce que je me suis fait une fracture tibia péronée. Donc là, je me suis dit que c'était vraiment la fin.
Est-ce que vous avez un fils ou une fille, Adrien ? Est-ce que vous l'avez inscrit ?
J'ai deux filles.
Et vous les avez inscrites au rugby ou pas ?
Et non, pas encore. Elles sont petites, la plus grande a 5 ans. Mais c'est vrai que je vais avoir un petit peu peur.
Ouais, mais vous allez les inscrire quand même ou vous vous dites non, fais de la danse, fais du tennis, n'importe quoi, mais
non,
pas du rugby.
Non, j'aime beaucoup ce sport et j'ai vraiment très envie qu'elle puisse vivre les mêmes moments que moi. Après, moi, j'ai vu aussi mon père sur le bord du terrain avoir très peur pour moi. Ça m'a pas empêché d'y retourner quand même. Voilà.
Écoutez, que ce soit un très joli sport là-dessus, tout le monde est d'accord, mais c'est vrai que avec parfois quelques coups qui font mal. Merci beaucoup de ce premier témoignage, Adrien, qui nous permet d'entamer ce débat pour en discuter ensemble. Il y a Mathieu Blin avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien joueur de rugby au Stade Français, vous êtes cofondateur de l'association Alerte Commotion. Il y a Xavier Bigard qui est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes médecin du sport, vous êtes directeur médical de l'Union Cycliste Internationale, vous êtes aussi co-rapporteur pour l'Académie de médecine d'un rapport sur les commotions cérébrales dans le sport. Bah, c'est à vous, docteur, que je vais m'adresser d'abord. Adrien nous dit, on ne connaissait pas tellement, on ne savait pas bien. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire ça, en fait ? On ne peut plus dire « je ne sais pas ». Est-ce qu'on sait tout aujourd'hui sur les commotions ?
Alors, en médecine, on ne sait jamais tout.
Certes.
Bien évidemment. Donc, mais par contre, on sait beaucoup plus de choses sur la caractérisation clinique des commotions cérébrales, sur leur prise en charge médicale. Mais l'histoire d'Adrien est extrêmement démonstrative. Mm-hmm. C'est vrai qu'il y a 10 ans, on parlait très très peu de commotions cérébrales et surtout de leurs effets à court, moyen et long terme. Or, maintenant, on sait, puisqu'on a des preuves épidémiologiques sur des larges études, que des commotions cérébrales répétées qui n'ont pas été associées avec une récupération totale, notamment de la cognition, des fonctions cognitives du cerveau qui ont été altérées, sans récupération de ces fonctions, c'est la porte ouverte à des maladies neurodégénératives qui peuvent se caractériser sous différentes formes. Mais maintenant, on n'a plus le droit de dire qu'on accepte une perte de connaissance sur le terrain, on accepte qu'une commotion cérébrale diagnostiquée puisse rejouer, retourner sur le terrain ou en compétition quelques jours après. Ce n'est plus du tout acceptable.
Mais du coup, je pense que ça viendra beaucoup dans notre débat et on posera la question à Mathieu Blain dans un instant. Xavier Bigard, quand un joueur, quel que soit le sport, prend un pet violent et même s'il ne perd pas connaissance, mais si on sent qu'il est un peu désorienté, qu'il y a vraiment un moment où il est sonné, pourquoi est-ce qu'automatiquement on ne décide pas qu'il ne faut pas retourner sur le terrain de toute façon ? J'ai l'impression, moi, qu'on se contente de lui demander s'il va bien, on lui met 2 petites claques pour être sûr qu'il est bien là. Et puis ensuite, il peut être un peu sur le banc de touche et puis il y retourne.
Alors, je ne veux pas parler pour le rugby en particulier, puisque dès que l'on parle de terrain, alors on parle football, mais c'est quand même... Les commotions
terrain
cérébrales
parquet,
sont
ouais.
plus rares. Oui, les commotions cérébrales sont quand même plus rares en football qu'en rugby. Mm-hmm. Hein, ça, c'est absolument évident. Mais moi, personnellement, je parle pour le cyclisme, par exemple, qui est aussi un sport à risque de commotion cérébrale. On met en place, et pas que dans mon sport, hein, ce sont des recommandations internationales, notamment sous l'égide du Comité international olympique, on met en place des outils très simples de détection de signes à risque de commotion cérébrale, qui doivent être connus par tout le monde, pas que par les médecins. Parce que des commotions cérébrales, bien évidemment, peuvent survenir à l'entraînement. Et c'est avec ces facteurs de risque-là que le diagnostic de commotion cérébrale pourra être assuré par des médecins. Et cette stratégie détection-confirmation, elle est absolument essentielle.
On va y revenir là-dessus, sur la détection, la confirmation et surtout sur qui doit savoir. Vous parlez à la fois des entraînements et aussi des matchs. On parle donc des entraîneurs, on parle aussi des arbitres. Et c'est vrai, Mathieu Blain, que le protocole, il existe. Mais j'ai l'impression que le vrai sujet, c'est est-ce qu'il est vraiment respecté ? Et puis surtout, encore une fois, j'ai envie de répéter ma question. Qu'est-ce qu'on dit à un joueur qui dit, qu'est-ce qu'on devrait dire à un joueur qui vient vraiment de se prendre un coup et qui dit non mais je vais bien, tout va bien, je suis sûr qu'il va très bien. Sauf que dans sa tête, il s'est passé autre chose. Qu'est-ce qu'on devrait lui dire ?
Ce qui est super, c'est que vous posez absolument toutes les questions et on voit combien ce sujet est vaste et combien l'ensemble des parties prenantes est nécessaire pour pouvoir apporter les bonnes réponses. Quand vous dites qu'est-ce qu'on dit à un joueur qui n'aurait pas conscience qu'il ne doit pas retourner sur un terrain, on doit lui dire qu'il n'y va pas et qu'il puisse avoir confiance aux personnes qui lui disent, c'est-à-dire que ces mêmes personnes sont elles-mêmes sensibilisées, formées à l'accompagnement, à la détection et surtout à la prise en charge. Bien sûr, moi, tous mes propos ce soir, et j'aime bien pouvoir le repréciser, moi, je suis pas médecin et je m'interdis même d'aller faire beaucoup de lectures ou de recherches parce que j'aimerais surtout pas, sans même m'en rendre compte, jouer au pseudo-sorcier ou pseudo-médecin. Chacun doit rester absolument là où il peut amener son expérience. On parle de retex, de retour d'expérience. Donc, ces joueurs-là, d'une part, quand on est commotionné, je l'ai vécu sur un terrain, on ne s'aperçoit pas des choses et on peut même être un petit peu agressif, on peut avoir des gestes qui demandent à pousser les médecins ou les soigneurs ou les personnes qui sont autour de vous parce qu'on est en réaction et ça montre bien bien que nous ne sommes plus maîtres de notre manière de se comporter. C'est hyper important de pouvoir dire que les commotions concernent énormément de sports. Et bien sûr, les sports à risque comme le rugby, mais pas que, doivent être modèles. Et on en parlera tout à l'heure, vous parlez des protocoles. Le rugby fait partie de ces sports. Je parle pour les professionnels. Et c'est la plus petite partie de tous les sports. Ce qui m'intéresse, moi, ce qui intéresse Alerte Commotion, ce sont l'ensemble des sports amateurs qui sont réalisés, joués par des filles et pas des garçons. Le rugby a mis en place des protocoles, a mis en place des soigneurs indépendants pour qu'il n'y ait pas de pression par des soigneurs d'équipe, a mis en place des protège-dents connectés pour avoir des détections.
Donc ça existe déjà, les
protège-dents connectés. Oui, ça existe déjà. Tout un arsenal est mis en place, mais on parle de 1000 joueurs lorsqu'il y a plus de 300 000 licenciés. Imaginez pour l'ensemble des disciplines le nombre de millions de personnes que ça peut concerner.
Mais alors du coup, est-ce qu'on peut répondre à cette question, Xavier Bigard? Effectivement, il faut que les entraîneurs... Il faut que les arbitres, même dans le monde amateur, connaissent les signes. Est-ce que ça existe un signe? C'est-à-dire un coup, c'est un coup, mais un coup qui soupçonne une commotion, est-ce qu'il est visible? Est-ce que moi, si j'apprends, je peux repérer une commotion, en gros, si quelqu'un se prend un choc sur un match?
Absolument. Et on a listé approximativement 7 à 8 signes qui sont des signes très à risque de commotion cérébrale, qu'on appelle des « red flags ». Et on a listé une dizaine de signes secondaires qui, lorsqu'ils sont présents au nombre de 2, doivent absolument faire extraire le joueur du terrain ou le sportif du terrain pour pouvoir l'examiner médicalement.
Exemple, Monsieur Bigard, c'est quoi les fameux 2, par exemple, au moins 2 signes, c'est quoi?
Alors, des vomissements, des nausées, des céphalées, c'est-à-dire des maux de tête, mal au cou.
Okay.
Une diplopie, c'est-à-dire on voit double.
Ah oui.
Quoi d'autre?
Et docteur, si je peux me permettre, je viens à votre soutien. Sur n'importe quel parquet ou n'importe quel terrain ou n'importe quel tapis de judo ou de gym, quelqu'un qui est désorienté, par exemple, qui se trompe de côté de son équipe, quelqu'un qui a tendance à mettre ses mains sur les genoux et à avoir beaucoup de mal à se relever, quelqu'un qui a plutôt tendance à être à l'inverse du jeu qui est en train... Ce sont des signes qui sont ceux dont parle monsieur.
C'est ce qu'on appelle la désorientation. Voilà. C'est quelqu'un qui est désorienté. On a 2-3 questions cibles dès qu'on est face dans les suites immédiates d'un choc. On cherche une désorientation spatio-temporelle.
D'accord. Donc, où es-tu?
Quel jour? Okay. Quel jour est-on?
Okay.
À quelle heure, à quel moment est-on du début du match ou de la fin du match? Et toutes ces petites questions s'adaptent en fonction des différents sports.
Et théoriquement,
et ce qui est essentiel, si vous permettez, je termine. Ce qui est essentiel, c'est de pouvoir distribuer l'argamanu à tous les non-professionnels de santé. Une liste de ces signes. C'est la raison pour laquelle on développe et on publie des petites pocket cards, des petites cartes de poche, le format carte de visite, sur lesquelles on a listé tous ces signes. On développe aussi maintenant des QR codes qui permettent, avec son smartphone, d'avoir tout de suite la liste de ces signes à risque.
Et alors, si...
utilisable par tous.
S'il y a signe à risque, Xavier Bigard, un garçon qui ne sait plus quel jour on est, effectivement, si on est dans la première mi-temps, dans la deuxième mi-temps, est-ce que ça veut dire qu'il faut... Alors, il y a 2 choses. 1, est-ce qu'on l'envoie tout de suite à l'hôpital en urgence? Et surtout, à quel moment faut le revoir, en fait, pour être sûr? Parce que est-ce qu'on décèle vraiment tout d'emblée en sortant du stade? Est-ce qu'il faut le revoir à 48 heures, à 72 heures? Comment ça se passe?
Alors, très bonne question, excellente question. Bien évidemment que ces signes sont des signes à risque de commotion cérébrale, qui nécessitent un diagnostic confirmé par un médecin. Hein, on remet les choses dans leur sens, tous ces signes sont utilisables par n'importe qui sur le terrain. Ensuite, le diagnostic doit être confirmé. L'hospitalisation n'est absolument pas une obligation, dans la mesure où tous les examens d'IRM ou autres que l'on peut faire ne montreront strictement rien en aigu. Par contre, ce qui est important, c'est dans les suites, une fois que le diagnostic est confirmé, c'est d'assurer la récupération des fonctions cognitives avec une surveillance. Et c'est là que surgissent les difficultés. Car il faut le joueur ou le sportif retourne chez lui à domicile avec un certain nombre de consignes, mais la difficulté, ça va être d'avoir du personnel suffisamment compétent, ayant les connaissances pour pouvoir le suivre au cours de sa récupération. Récupération qui sera définie par un calendrier de reprise de l'exercice avant le retour en compétition.
Mais ce que ça veut dire, c'est que, parce qu'il faut aussi rassurer les gens qui nous écoutent et qui parfois, effectivement, sur un terrain ou sur un parquet peuvent prendre un coup, ça veut dire que si on fait les choses bien, Xavier Bigard, on récupère d'une commotion.
Ah ben bien sûr.
Ok. Non mais on récupère définitivement. Ouais. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on en a eu une que derrière, ce sera la catastrophe.
Non, bien sûr. C'est en fait tous les cas de maladies neurodégénératives que l'on décrit font toujours suite à de multiples commotions cérébrales non prises en charge, non traitées et non diagnostiquées. Et comme le disait Adrien au début, on est très attentif maintenant aux commotions cérébrales depuis à peine une dizaine d'années.
Je voudrais qu'on retourne au standard, retrouver un autre rugbyman, puis on changera de sport après, c'est promis, parce qu'il y a beaucoup de questions aussi sur d'autres disciplines. Voici Pierre qui est en Corrèze. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Pays de rugby, allez-y Pierre.
Oui, mais moi c'était donc un petit peu un témoignage en tant qu'éducateur, entraîneur, j'ai entraîné énormément des féminines, j'ai mon fils qui pratique aussi énormément le rugby, et c'est vrai que ce qu'on peut voir les week-ends sur les terrains, des fois c'est pas très encourageant, à savoir par exemple les arbitres qui hésitent pour certains à sortir le carton bleu quand il y a un doute, les entraîneurs éducateurs qui hésitent à sortir le joueur quand ils ont connaissance qu'il y a eu un choc assez important. Encore ce week-end, un joueur a pris un gros choc, limite un KO, il titubait. Deux mètres après, il se relève, il retombe, et l'éducateur, l'entraîneur ne sort pas le joueur. Certains joueurs font, l'arbitre met un carton bleu, et le joueur ne veut pas sortir du terrain parce que il veut continuer sa passion, il veut jouer. Je pense qu'il y a un manque. Même s'il y a des progrès qui ont été faits au niveau des fédérations, de la FFR, etc., je pense qu'il y a encore un manque sur les risques et le respect de l'intégrité physique des joueurs quand on est, par exemple, entraîneur et soigneur. Je rencontre beaucoup de personnes bénévoles soigneurs qui n'ont pas forcément les compétences pour être sur le bord du terrain. Et j'en vois tous les week-ends, parce que moi, je suis mon fils tous les week-ends et j'ai qu'une peur, c'est que le soigneur ne voit pas qu'il lui est arrivé quelque chose. Et je veux prendre, moi, la décision de sortir ou demander à l'entraîneur de sortir. Et ça, c'est grave, je trouve.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Pierre. C'est important ce que nous dit Pierre Mathieu Blin sur à la fois effectivement les connaissances que peuvent avoir les entraîneurs, les gens qui sont sur le bord du terrain, sur la volonté aussi de sortir du jeune sportif qu'il faut arriver à prendre par le maillot en lui disant tu sors. Je voudrais vous en profiter pour vous donner le témoignage de Virginie qui dit mon fils de 16 ans a eu un carton bleu suite à un choc, une perte de connaissance en équipe élite. Il a été absent du terrain 12 jours, moins confiant, puis mis sur la touche parce que moins agressif. Aucun soutien psychologique ni de remise en route progressive pour qu'il reprenne confiance. Il s'est senti mis sur la touche et ça a été plus difficile au fond que la commotion cérébrale elle-même. Et moi, je le disais en introduction, mais je découvre l'existence du carton bleu. Comment ça se fait qu'on ne connaît pas universellement le carton bleu ?
Parce qu'il est très nouveau dans le rugby, il a été mis en place, il doit être sorti par l'arbitre, et donc ça montre bien combien les arbitres doivent être sensibilisés et formés à ce qu'est le repérage de commotion cérébrale, et ils doivent être avec leurs assesseurs, ceux qui les aident, mais évidemment avec les staffs des équipes. Mais j'allais dire aussi des dirigeants ou des personnes plus neutres, puisque ce qui est assez insupportable...
Peut-être même qu'il faudrait que quelqu'un sur le bord du terrain soit capable de brandir le carton bleu.
Oui, mais c'est ce qu'on appelle souvent les surveillants ou les délégués qui sont là justement pour amener une certaine neutralité. Ça montre bien, quand bien même il y a eu beaucoup de progrès, qu'il y a encore 1000 choses à faire. Ce carton bleu dans le rugby, on espère qu'il puisse faire des petits dans toutes les autres disciplines pour que l'ensemble des disciplines puissent se mettre d'accord sur cette manière de pouvoir sortir une joueuse ou un joueur, quel que
soit
ça.
Mais c'est fou parce que ça existe. Enfin, je veux dire, il y a un jet de l'éponge, à la boxe, par exemple. Normalement, ça devrait exister.
Oui, mais c'est un sujet de santé publique.
Bah oui,
en fait, les commotions cérébrales, c'est un sujet de santé publique. Et comme tout sujet de santé publique, il faut un arsenal d'actions pédagogique, répressive, de formation, bien sûr, autour de la règle. Il faut changer les règles. Si on parle de rugby, il faut continuer à faire que on doit abaisser la ligne de plaquage en faisant attention à ce que ce soit pas forcément autour de la hanche, parce que on peut aussi souvent s'assommer sur la hanche. On pourrait imaginer que le plaquage à deux soit interdit. Rappelez-vous, à l'époque des mêlées, il y avait beaucoup d'accidents des mêlées. C'était des accidents non pas autour des commotions, mais autour des cervicales. Ouais. Et on a dit, ok, on n'a plus le droit de pousser chez les plus jeunes, on n'a plus le droit de pousser sur les adultes, et on doit avoir des respect, de distance qui sont beaucoup plus petits. Ah bah vous allez tuer le rugby, ouais. Vous allez faire que ce n'est plus ce même sport. 20 ans après, c'est évidemment le même sport avec un intérêt très important. La commotion, on rappelle, hein, c'est le cerveau qui est un peu mou, qui bouge à l'intérieur de la boîte crânienne.
Qui tape sur la boîte crânienne.
Une boîte qui est beaucoup plus dure. C'est fait par un impact direct, ça se voit souvent, ou indirect. Ça veut dire qu'il peut y avoir un grand mouvement de balance qui fait qu'il y a une commotion cérébrale. On rappelle que quand un individu est au sol, au moins que l'émission serve aussi à ça, si quelqu'un est au sol en perte de connaissance, bien sûr, on ne la touche pas. On ne la même pas sur le côté, puisqu'on ne doit pas toucher les cervicales au risque de pouvoir faire des dégâts encore plus importants qu'ils ne le sont. On appelle tout de suite les pompiers et on reste là en maintenant la tête sans bouger. S'il n'y a pas de perte de connaissance, on oblige bien sûr l'individu à sortir du terrain. Il n'y a que les médecins, il n'y a que les neurologues qui après doivent poser un diagnostic et mettre en place un protocole, puisque les symptômes, ça touche le corps. Mmh. On a mal au ventre, on a envie de vomir, on a mal à la tête, la lumière peut nous faire du mal. Ça touche la pensée, on a plus de mal à se concentrer, on a des difficultés à pouvoir retenir des choses assez simples. Ça touche les émotions, on est irritable, on est agité, on est triste. Ça touche le sommeil, on est insomniaque ou au contraire, on a envie que de dormir. Tous ces symptômes post-traumatiques sont là aussi énormément doivent être absolument pris en compte. Et Alerte Commotion suit notamment ces personnes-là qui ont des symptômes post-traumatiques très importants parce que les parcours sont interminables parce que tout le monde n'est pas encore tout à fait d'accord. Beaucoup de neurologues disent que les personnes qui tombent en dépression, c'est parce qu'elles avaient des maux à la tête avant même que la commotion soit réalisée. Ce qui est évidemment pas vrai.
On va parler de casque dans un instant, mais pas seulement pour le rugby d'ailleurs, hein, pour aussi les autres sports. Et justement, je voudrais qu'on change de sport. On est en train de parler de commotion dans le téléphone sonne ce soir, commotion dans le sport, avec Mathieu Bien, qui est un ancien joueur de rugby.
Ça me va bien.
Et vous êtes aussi cofondateur de l'association Alerte Commotion avec Xavier Bigard, qui est médecin du sport aussi et directeur médical de l'Union Cycliste Internationale. Et avec vous, Olivier, vous êtes à Tours et vous voulez parler de MMA. Bonsoir. On vous écoute.
Je vais donner un exemple contre-intuitif et commencer par rappeler Mohamed Ali qu'on a vu au JO avec Parkinson parce qu'il n'a pas été protégé dans sa carrière. Et par exemple, les plongeurs olympiques qui font du 10 mètres et qui se retrouvent avec les mêmes problèmes auxquels on ne pense pas. Et donc en MMA, que je suis en fait depuis 1995, c'est un sport qu'en France qui vient d'arriver il y a moins de 5 ans. Et c'est très décrit, même sur votre antenne, c'est quelque chose où vous avez très peur de ça. Sauf que c'est un sport qui a évolué très rapidement et pour lequel je peux vous dire qu'un combattant pro, il fait 2 à 4 combats maximum parce que déjà à la boxe, vous parlez de l'éponge...
2 à 4 combats par quoi
Par an.
Par an
seulement.
À bout du, ok.
Oui. Pour le protéger, justement, la réparation des chocs et des commotions. Et quand il y a un combattant qui ne se défend pas intelligemment, c'est la règle, l'arbitre intervient, il coupe le combat, il lui met une lampe dans les yeux s'il y a eu un choc et tout ça, et il est retiré. Et juste, ce qui est important, c'est que ça n'arrive pas, par exemple, en boxe, et c'est l'encadrement eux-mêmes dans le MMA qui ont mis ça. Alors que faites ça sur un match PSG-OM, je ne sais pas quoi, c'est l'arbitre, il va se faire tuer. Et donc, pour finir, le OMMA, donc non seulement on fait attention à ça, mais on les suit derrière. Et le final word, c'est vraiment, pardon, parce que
le mot de la fin, ouais, voilà, le final cut en mauvais français.
Voilà, et c'est vraiment le médecin. Il n'y a jamais personne qui lui parle. Et ils sont suivis.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Olivier. Mathieu Blin, est-ce qu'il y a des sports, en effet, peut-être les nouveaux sports, d'ailleurs, j'en sais rien, vous allez me le dire, qui sont plus regardants que d'autres, en fait. Et au fond, est-ce que c'est dans les vieux sports, le rugby, le football, quand on hésite, la boxe, d'ailleurs, on hésite à modifier les règles parce qu'on a l'impression effectivement de faire un crime de lèse-majesté, que c'est plus difficile.
Je ne crois pas. Alors le MMA qui est très, très récent, avec une violence avérée sans qu'il n'y ait compréhension de règles particulières au départ, bien sûr il y en a plein quand on regarde, a été dans l'obligation d'être presque à la pointe, même
pour
si
être autorisé,
pas,
en fait.
Pour être autorisé à être pratiqué. Le rugby est un vieux sport, encore que, il est à la pointe dans la prise en charge pour le monde professionnel. ce n'est absolument pas encore le cas et suffisamment le cas, quand bien même la Fédération Française de Rugby et la Direction Technique Nationale a mis en place plein de choses, on ne protège pas encore assez l'ensemble de tous les licenciés, garçons et filles. Mais c'est ça qui nous intéresse chez Alerte Commotion. C'est évidemment tous les amateurs. Et que le protocole de soins, parce que vous posiez la question tout à l'heure, est-ce qu'on peut récupérer d'une commotion ? Ouais. Bien sûr qu'on peut récupérer d'une commotion, comme d'une déchirure, comme d'une fracture, quand bien même on se fasse une très grosse fracture. Ouais. Et ce qui est important, c'est de ne pas fragiliser le corps. Quand on se fait une, deux, trois déchirures, on fragilise le muscle et on peut peut-être ne plus pratiquer. Quand on fait une, deux ou trois commotions, on peut à un moment donné être interdit. Et là, les neurologues prennent en place les protocoles de soins, mais aussi les kinésithérapeutes, les physiothérapeutes, l'ensemble des spécialistes autour des yeux. Bref, il y a tout un parterre du monde médical qui est là pour pouvoir améliorer la santé de celles et ceux qui en ont subi.
Après, ce qui est intéressant, Xavier Vigard, c'est que lorsqu'on se fait une déchirure, ça vient l'idée de personne de retourner sur le terrain quand on a une déchirure, mais on se pose la question après une commotion, et peut-être que ça commence là, en fait, c'est de mettre la commotion sur le même plan qu'un genou qui vrille. Si on le faisait comme ça, ben on comprendrait qu'on ne revient pas sur le terrain. On a un message que j'ai trouvé assez finaux de Pauline qui nous dit « Moi, je suis kiné dans le milieu sportif amateur, et comment être crédible auprès des patients quand Antoine Dupont retourne sur le terrain 48 heures après une chirurgie faciale ?» On ne parle pas de commotion, là, mais on parle de la mise en danger de soi-même et de cette espèce d'idée dans le sport qu'il y a qu'on est plus fort que le mal.
Oui, alors là, vous touchez du doigt une question qui est une question d'éthique médicale et de bonne pratique médicale. Au sein de l'Académie nationale de médecine, on est très, très soucieux à cela, hein, de l'application de bonnes pratiques médicales. Je ne jugerai pas du cas d'Antoine Dupont, pas du tout. Je dis seulement que, au plan médical, on ne peut pas autoriser le retour sur le terrain d'une commotion cérébrale diagnostiquée qui n'a pas totalement récupéré ses fonctions altérées, notamment les fonctions cognitives, puisque on parle de lésions du cerveau, mais il faut savoir que ces commotions cérébrales se caractérisent par des lésions fonctionnelles, c'est-à-dire de fonction du cerveau, hein. Ce sont pas des lésions anatomiques. Ce sont des lésions fonctionnelles et il faut surveiller la récupération de ces fonctions. Ce qui pose un vrai problème, là aussi, de compétence du monde médical autour de ces sportifs, qu'ils soient amateurs ou qu'ils soient professionnels, que ce soit des sportifs du dimanche ou pas, vous voyez. Et dans le rapport qu'on a publié avec l'Académie nationale de médecine, on insiste beaucoup là-dessus, sur la formation des professionnels de santé qui doivent être formés, qui ne le sont pas suffisamment, et surtout des non-professionnels de santé.
Ouais, on a bien compris ça, les professionnels de santé, les entraîneurs, les arbitres,
les parties prenantes.
Les parties prenantes, quelles qu'elles soient. Bonsoir Cléopâtre Darleux.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous ai fait patienter beaucoup. Je m'en excuse.
Pas de problème. C'était intéressant.
Écoutez, tant mieux. Vous êtes joueuse de hand, évidemment. Vous êtes la gardienne de l'équipe de France. Face à Brest, vous avez reçu un tir droit dans la tête. Mm-hmm. Et ce qui est intéressant, c'est que vous étiez déjà arrêtée une année pour une commotion. Et donc là encore, vous avez vraiment été sonnée. Vous avez été envoyée à l'hôpital. Le protocole commotion, vous dites bien sûr qu'il existe, mais c'est bidon et c'est mal fait. Pourquoi, selon vous, en tout cas dans votre sport, c'est bidon et c'est mal fait?
Alors, c'est bidon et c'est mal fait parce que c'est un peu l'inconnu. C'est vrai qu'on n'en a pas trop entendu. Enfin, moi, j'en avais jamais entendu parler, même si bon, des ballons dans la tête, j'en ai pris beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a 2 ans, quand j'ai pris un premier ballon et que j'avais mal à la tête et que mon médecin me dit « Bon, bah, tu peux quand même t'entraîner, mais à 80% » et que j'en reprends un, deux jours après et un autre 3 jours après, bah, c'est là que c'est problématique. Donc, c'est pour ça que j'étais arrêtée si longtemps. Et en fait, c'est vrai que... C'est vrai que le protocole en fait commotion aujourd'hui, enfin pourquoi j'étais énervée là quand j'ai pris ce ballon là samedi dernier, c'est que en fait ça sert à rien parce qu'en fait l'arbitre nous fait pas forcément sortir, donc en fait il dit commotion, enfin protocole commotion, donc le médecin arrive et pose 3-4 questions et si on répond bien on reste sur le terrain. Ouais. Alors pour moi faudrait faire comme au rugby parce que comme on dit, ils sont vraiment en avance par rapport à nous. Nous faire sortir et faire vraiment un vrai questionnement avec peut-être des tests d'équilibre. Enfin.
Et là, voilà, par exemple, Cléopâtre, vous avez été aux urgences parce que vous avez dit non, mais attendez, moi je sais ce que c'est, j'en ai déjà pris, ou est-ce que on vous a envoyé aux urgences ?
Non, là en fait c'est que alors j'ai pas eu de symptômes de commotion, j'ai pas du tout eu mal à la tête, sachant que la semaine d'avant j'en avais déjà pris un et que j'ai été arrêtée 4 jours, donc je revenais vraiment d'une commotion. En plus, c'est ça qui était, c'est pour ça que c'était problématique, donc j'ai eu un petit peu peur par rapport à ça. Mais c'est qu'en fait, je voyais plus. En fait, j'ai pris le ballon dans l'œil et je voyais tout blanc. Donc je voyais plus rien. Donc bon, effectivement, là, j'ai eu un peu peur, mais au final, c'était que l'œil. En fait, c'était une inflammation de l'œil et ça a duré 2-3 heures. Et après, ça s'est dissipé petit à petit.
Il y a deux choses dans votre sport, le hand. C'est effectivement, alors vous êtes goal, des balles sur la tête, vous, comme vous le dites, hein, vous en avez pris un certain nombre. Mais vous dites aussi qu'il faut mieux sanctionner ceux qui tirent. Et après tout, vous citiez le rugby. On a descendu le plaquage au rugby.
Exactement.
Donc, est-ce qu'il y a des règles ou est-ce qu'il faudrait réinstaurer des règles? Si on tire au niveau de la tête, on sort, quoi, tout simplement.
Voilà, moi, je suis vraiment pour s'inspirer du rugby. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, avant, les plaquages hauts, ça se faisait. Tout le monde a dit non, mais c'est pas possible. On peut pas changer les règles comme ça. Mais en fait, il faut qu'on passe par là. Si le tir est pas maîtrisé, comme un plaquage non maîtrisé, le joueur sort. Et pour moi, ce serait pareil sur les tirs dans le visage, droit dans le visage, quand la joueuse n'est pas touchée ou quoi, elle sort, en fait, c'est tout. C'est, elle prend un rouge parce que le tir n'est pas maîtrisé. Et aujourd'hui, il y a trop de dangers pour les gardiens de but. Donc voilà, ça passera par changer les règles, à mon avis.
Quand vous entendez parler du carton bleu, est-ce que vous vous dites, mais nous aussi, on veut un carton bleu dans le hand?
Alors nous, on a quand même, je crois que c'est carton blanc, ils appellent ça, il me semble, hein, là je suis même pas sûre, mais en tout cas il y a quand même quelque chose qui est fait. Mais
parce que là,
mais
la fille qui vous a tiré dans la tête, elle a été quoi, exclue 2 minutes, 3 minutes,
c'est comme ça que ça marche, en fait. Ouais, en fait, c'est ça. Ouais. C'est une exclusion de 2 minutes et en fait il y a un carton rouge que sur penalty.
Ouais.
Donc là, si la gardienne prend le tir dans le visage sur penalty, c'est rouge. Mais voilà, il y a trop de séquelles après pour les gardiennes. Et pour moi, il faut que ça change.
Après, Cléopâtre Darleux, vous avez pris donc 2 coups, coup sur coup. Vous avez été arrêté 1 an, vous êtes revenu. Vous avez quand même eu le temps d'être vice-championne olympique. Et puis, vous avez repris des coups dans la tête. Est-ce qu'à un moment, on se dit, c'est bon, j'ai ma dose, je suis en train de me faire mal, en fait? Est-ce que c'est une question est-ce que là, en ce moment, au moment où on se parle, c'est la question qui tourne dans votre tête, à laquelle vous n'avez pas encore de réponse?
Non, c'est vrai que du tout, c'est pas une question que je me pose, même si on y pense un petit peu, enfin c'est surtout mon mari qui m'en parle, mais moi c'est vrai que en fait je sens que j'ai récupéré à chaque fois, mais je sens que je suis plus fébrile qu'avant, c'est-à-dire que maintenant
vous avez la trouille, si je prends un ballon,
non, j'ai pas du tout peur, franchement j'ai pas peur du ballon, et c'est mon problème, hein, parce que du coup je me mets vraiment en face, voilà. Mais par contre, si j'en prends un dans le visage, je mets beaucoup plus de temps à récupérer. Je vais presque systématiquement faire une commotion. En fait, je vais avoir 4-5 jours où je vais avoir des maux de tête, où je vais avoir des symptômes de commotion, en fait. Et après, ça passe. Donc, c'est là que je vois quand même que mon cerveau a un petit peu pris cher, quoi. Et j'ai quand même aussi quelques petits symptômes encore qui restent. Enfin, j'entendais, je sais plus quel joueur de rugby dire ça, mais qui peut plus faire, par exemple, de parcs d'attractions avec ses enfants. Ben, moi, c'est pareil. Ça, je peux pas.
Mais moi, je vous entends. Ouais. Vous dites que vous faites peur à votre mari, pardon, mais vous me faites peur à moi, Cléopâtre Darleux. Vraiment, je vous entends, vous me faites peur. Il y a Mathieu Blin qui veut intervenir.
Salut Cléopâtre, ouais. C'est évidemment super de pouvoir entendre une grande star, une grande joueuse de l'équipe de France de hand. Elle dit des choses hyper importantes. La dernière, en disant qu'elle a l'impression de faire une commotion plus rapidement, ou en tout cas qu'elle arrive à les répéter, malheureusement, on parle de fragilité, au même titre que tout à l'heure, j'évoquais une fragilité musculaire, auquel le risque, c'est du fonctionnel. Comme l'a dit le docteur tout à l'heure, là, on est sur des fonctionnalités cognitives qui peuvent avoir des impacts et des conséquences beaucoup plus importantes. C'est pour ça que les protocoles de soins doivent être respectés à la lettre. Mais on parlait de l'arbitre. On va en pas remettre une énième responsabilité sur l'arbitre, alors qu'on sait qu'ils peuvent avoir énormément de pression.
Mais quand même, hein.
Directement de la part de staff, de la part de fédération, de la part d'instances, de la part de médias. C'est pour ça que l'ensemble des parties prenantes, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs du côté d'Alerte Commotion, qu'elles se réunissent, toutes les parties prenantes, toutes, pour pouvoir discuter et de comment elles peuvent se mettre d'accord une bonne fois pour toutes, pour prendre ce sujet qui est un sujet de santé publique et qui ne peut pas être ni galvaudé ni mis sur le tapis, parce que vous avez bien compris que le risque pour les sports de parler de ça, c'est de faire en sorte qu'il n'y aurait peut-être de moins en moins de licenciés dans leur fédération. Et ça, tant pis, quoi. Tant pis, on est obligé de dire les choses et de ne rien retenir.
Avant de vous laisser, parce qu'il reste du monde au standard, Cléopâtre Darleux, je voudrais poser une question un peu bête, mais si demain on disait, alors peut-être qu'il reste à l'inventer, effectivement, mais il faut que les gardiennes et les gardiens au hand portent un casque.
Oui, alors faudrait l'inventer. Ouais. Parce que c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas... Enfin, je ne pense pas qu'un casque... Alors, ça va peut-être amortir un petit peu
l'impact. Un truc qui ressemblerait au rugbyman, vous voyez, et qui prend toute la tête.
Ouais, mais au final, comme on dit, c'est le mouvement de la tête en fait en arrière. Ça n'empêchera pas en fait la tête de partir vite en arrière. Mmh. Ça amortira... Je pense que ça amortirait le choc, donc la douleur peut-être du ballon au visage. Mais après, je pense que la tête partirait quand même en arrière. Donc, pour moi, ça suffit pas. Bon. Pour moi, c'est vraiment les règles qu'il faut changer.
Ben écoute, en tout cas, on vous remercie beaucoup, Cléopâtre Darleux, et mettez bien vos mains à l'avant, protégez votre tête. Merci beaucoup, merci vraiment. Je voudrais pas qu'on s'en aille sans écouter Baïja. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Merci de me prendre à l'antenne. Donc, je suis Baïja Bougara, je suis la grande sœur de Redouane Bougara, qui est un boxeur qui est décédé en 1998 de sûrement plusieurs commotions cérébrales, d'une hémorragie intraventriculaire. Il est mort à l'occasion de son dernier combat qui s'est déroulé aux États-Unis et on s'est rendu compte après la mort de mon frère que en fait, donc il était boxeur en boxe pied-point. Donc j'ai bondi tout à l'heure en entendant le témoignage de la MMA. J'insisterai sur ce qui nous a été dit à l'époque par le directeur du cabinet de la ministre des Sports en 1998, lorsque on a dit mais comment protéger les sportifs, quel que soit le sport qu'ils pratiquent, face aux risques. Par exemple, si mon petit frère, au lieu d'avoir un électroencéphalogramme avant son dernier combat, avait eu un IRM, probablement qu'il serait encore parmi nous aujourd'hui. On nous a répondu... faire passer un IRM sur des sports dont on sait qu'il y a des risques pour notamment le cerveau coûterait beaucoup plus cher à la sécurité sociale que le nombre de pertes humaines ou d'accidents dans les sports à l'année. C'est en 98, c'est très important cette date. Puisque aujourd'hui, on est 27 ans plus tard, que la question n'est toujours pas réglée. Et j'insisterai sur un autre point. Lorsqu'on est dans une fédération avec un agrément définitif tel que la fédération de rugby ou de hand, les DTN sont là pour surveiller l'application des règles. Mais lorsqu'on est sur des fédérations comme la fédération boxe pied-point, encore aujourd'hui, qui n'a pas toutes les fédérations n'ont pas d'agrément définitif, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de surveillance de la part du ministère pour les obliger à respecter les règles de protection des pratiquants, qu'ils soient amateurs ou pro, on y met le mot qu'on veut derrière, eh bien, on continuera d'avoir des accidents. Et malheureusement, après la mort de mon frère, il y a eu d'autres décès qu'on a eu à regretter.
Baïja.
Et je suis, voilà, oui, je sais,
on arrive vraiment au bout, mais je vous remercie pour votre témoignage. Je voudrais me tourner vers le médecin pour répondre, enfin, non pas répondre à cette question, mais pour avoir au moins votre remarque, Xavier Bigard, là-dessus. Ça dit, en fait, ce que ça dit, ce que ça nous raconte, c'est combien il y a inégalité dans le sport, au fond, et que suivant la fédération, suivant le type de sport, sa popularité ou pas, les sportifs ne sont pas égaux du tout, grands ou petits.
Les sportifs ne sont pas égaux et personne n'est égal à son voisin non plus, hein. Aussi bien en termes d'encadrement, bien évidemment, puisque là on parle surtout du sport professionnel depuis un certain moment, mais on oublie aussi le sport amateur, on oublie les personnes qui prennent leur vélo, qui vont faire une sortie le dimanche et puis qui chutent dans une descente et puis qui sont groggy, qui remontent sur le vélo et qui continuent et qui mettent leur vie professionnelle comme si de rien n'était. Donc c'est vrai, mais on part de très loin, on part de très loin, mais on est parti. Et donc, il faut regarder devant et clairement, les choses s'amélioreront dans l'avenir grâce à des actions multiples de formation, de sensibilisation, de diagnostic et de connaissances générales sur ce que sont ces commotions cérébrales liées à la pratique sportive.
Finissons sur cette note optimiste. Merci beaucoup, merci à tous les trois, merci à tous pour vos très nombreux appels.